Je suis ravie que vous soyez toutes les deux réunies avec moi autour de cette table pour discuter du sujet de la maternité et du rapport des femmes autour de ce désir. Bonjour Cynthia, bonjour Fabienne.
Bonjour Ambre.
Bonjour.
Donc on est trois jeunes femmes, on a 19, 25 et 26 ans, et c'est intéressant de constater que si on avait vécu il y a 500 ans, on aurait été considérés par la société environnante comme étant des femmes inutiles, puisque sans enfants et n'ayant pas encore accompli donc cette étape de la maternité.
Moi, je suis Fabienne Gentil, j'ai 19 ans.
Cynthia, 26 ans, gentille.
Et Ambre, 25 ans, j'habite également à Gentilly. Historiquement, donc, le rôle de la femme s'est toujours cantonné donc, à ce rôle de matrice de la vie, jusqu'à il n'y a pas si longtemps encore, et même encore dans certains pays, une femme sans enfant reste, entre guillemets, une femme inutile, voire pas considérée comme une femme. Aujourd'hui, dans notre société occidentale, moderne, etc., des femmes, certaines femmes en tout cas, osent assumer et revendiquer leur désir de non-maternité, et s'affirment dans leur féminité sans avoir d'enfant. Donc j'ai une première interrogation pour vous. Est-ce que vous voulez ou vous voudrez dans le futur avoir des enfants?
Oui, je pense, oui, je voudrais des enfants dans le futur, quand j'aurai un conjoint avec qui vivre et un bon conjoint. Voilà, c'est pour moi, c'est ce qu'il me faudrait en tout cas pour en avoir. Sinon, je préfère ne pas en avoir du tout et m'occuper des enfants des autres, ça me va très bien aussi.
Alors, pour ma part, j'ai pas vraiment réfléchi sérieusement à ce sujet, étant donné que je suis un peu. Enfin, j'ai 19 ans, même si c'est vrai qu'il y a. Dans mon entourage, je vois plein de filles qui sont en train d'avoir des enfants. Mais c'est pas quelque chose qui me fait rêver, dans le sens où les projets que j'ai pour après mes études, c'est de voyager, d'apprendre à me connaître, d'apprendre à connaître les gens autour de moi, et pour l'instant, je pense pas avoir l'énergie nécessaire à consacrer à un être vivant et à mettre de l'énergie dans son éducation et tout. Mais peut-être que ça viendra avec le temps, mais c'est pas quelque chose qui me fait rêver pour l'instant.
Et toi, Ambre?
Il n'y a pas si longtemps, j'étais comme Fabienne aussi, j'y pensais pas trop, je me projetais pas du tout dans ce rôle et très honnêtement, je me rapproche plutôt de l'enfance que de la parentalité. Mais bon, étant donné que j'ai 25 ans et c'est un âge où il y a quand même pas mal de personnes autour de moi qui commencent à songer à ce genre de choses, alors ça commence par des mariages par-ci par-là et on entend parler des premiers bébés. Je commence à me poser la question, est-ce que j'en veux, est-ce que j'en veux pas, parce que en fait je sais pas vraiment. Il y a beaucoup plus d'arguments contre que d'arguments pour, en tout cas dans ma situation. Pourquoi est-ce que des femmes voudraient ou ne voudraient pas d'enfants? Je sais pas si c'est vous êtes déjà posé ces questions aussi, si dans votre entourage il y a des gens qui ont eu justement cet argumentaire ou qui n'en ont pas eu, des gens peut-être plus âgés.
Depuis petite, mais vraiment toute petite, quand ma mère, elle me demandait, ah, tu auras des enfants, si j'avais envie d'avoir des enfants et tout, c'est un sujet, voilà. Et puis même à mes frères, elle demandait. Et moi, j'ai toujours dit non. J'ai pas envie de faire comme vous avez envie que je fasse, donc juste laissez-moi. Et je disais non. Et jusqu'à maintenant, je dis non à ma mère. Alors que pourtant, enfin, j'ai un copain. Et quand on dit non, le week-end dernier, ça a été la source d'un conflit avec ma mère, parce que je lui ai dit non et que mes arguments pour elle, ils n'étaient pas valables. Je lui ai dit que j'avais juste pas envie et en fait, j'avais pas envie de me justifier. Donc en fait, mes arguments, je trouve qu'ils sont personnels et que ça reste entre moi et mon copain. Et j'ai pas besoin de me justifier auprès de même ma mère. Et au même titre que quand je dis que je suis pour le droit d'avorter, pour le droit de pouvoir bénéficier, de pouvoir justement choisir de ne pas élever un enfant de force, et elle le prend super mal. Sauf que moi, mon avis, Il est clair, enfin, il est pas prêt de changer. Et puis elle m'a dit souvent que j'allais regretter un jour de dire depuis petite que je veux pas d'enfant, parce qu'elle m'a dit bah ça se trouve qu'un jour tu te retrouveras dans la même situation que moi, à galérer pendant des années. Sauf que je suis pas de cet avis et que bah.
Je pense que du coup là-dessus, je peux rebondir parce que depuis 2020 à peu près, où il y a plusieurs livres en fait qui ont paru sur un sujet qui jusque-là était quand même très tabou et qui commence, on voit fleurir plein d'ouvrages avec des témoignages et des retours d'expérience, on va dire, sur des femmes qui ont regretté d'avoir eu un enfant. Donc il y a l'ouvrage par exemple Le regret d'être mère d'Orna Donat ou Mal de mère. Le recueil de témoignages de Stéphanie Thomas, qui regroupe du coup plusieurs témoignages de dizaines de femmes qui sont du coup maintenant mères et qui témoignent de ce regret. Et donc dans cet ouvrage, notamment l'ouvrage d'Orna Donat, donc elle relate la souffrance en fait des femmes pour qui la maternité a été très compliquée. Qu'elles n'ont pas supporté en fait les transitions et les changements qui ont eu dans leur vie, que ce soit évidemment biologique, mais aussi la perception qu'ont les autres de leur personne, des relations qu'elles ont avec les autres qui ont forcément évolué, que ce soit leur relation de couple, leur relation familiale, les rapports qu'elles peuvent avoir avec leurs amis, puisque pas les mêmes disponibilités, tout simplement. Ces femmes ont remis en question donc les conséquences qu'a eu la maternité sur leur vie. Et ça remet aussi au centre la question de la définition de la femme, avec un grand F. Est-ce qu'une personne de sexe féminin qui n'a pas d'enfant reste quand même dans la définition de la femme au-delà de la mère?
Moi, pour ma part, en tout cas, il y a un côté biologique que je comprends dans le fait de vouloir des enfants. Dans l'instinct de reproduction, c'est un instinct naturel, archaïque, qui est vraiment dans nos. On vit pour se reproduire, pour reproduire l'espèce. C'est pour ça qu'on mange, c'est pour ça qu'on respire. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où on veut, naturellement, en tout cas quand on est petit, on veut reproduire ce qu'ont fait nos parents. On a envie d'être comme eux, d'être une maman aussi, d'être un papa aussi. Ou bien. Autrefois, ce qu'on voyait beaucoup, c'est ben, tu as une famille et tu as envie de transmettre tes valeurs, ben, tu vas transmettre le mieux tes valeurs à tes enfants. C'est quelqu'un que tu as pu modeler depuis le début, ou si tu as un héritage spécifique que tu veux transmettre, c'est quand même au biais de la famille que c'est le plus facile de le faire. Ouais,
Du coup,
et oui.
enfin, j'allais dire, c'est ce qui, dans
Non.
ce sens, c'est ce qui correspondrait, de mon point de vue, d'autant plus à la définition de l'égoïsme, que quand on dit qu'une femme ne veut pas d'enfants, c'est égoïste. Du coup, dans l'autre sens, si avoir des enfants, c'est pour soi, pour transmettre son savoir, ses connaissances, ses valeurs, ça, de mon point de vue, ça correspond davantage, en tout cas, à cette définition. Est-ce que vous croyez à l'instinct maternel?
J'avais vu des études qui montraient que quand tu donnes naissance à un bébé, il y a une poussée d'ocytocine dans ton corps. Et l'ocytocine, c'est l'hormone du bonheur, c'est l'hormone de l'attachement et du bonheur, qui fait que malgré l'immense douleur que te fait l'accouchement, bah, tu vas être énormément attaché à ton bébé sur le coup, quoi. Donc déjà, j'ai vu, c'est un phénomène physique qui se produit, qui explique que, moi je pense c'est pour ça que tant de femmes, enfin je pense que ça peut être une des raisons pour lesquelles les femmes qui accouchent, elles parlent plus du fait qu'elles sont contentes d'avoir un bébé que de la douleur qu'elles ont vécue, parce qu'il y a vraiment toute cette poussée d'hormones qui les a aidées à surmonter, quand ça se passe bien. Après, je pense, j'ai aussi beaucoup entendu parler du baby blues qui arrive après l'accouchement, aussi une période de grande dépression. Donc, où là, des fois, l'instinct maternel il est complètement refoulé. Juste pourquoi? Parce que la femme, ben, elle est complètement épuisée. Il y a tout qui change. Il faut s'occuper d'un nouvel être. Ça, vraiment, ça change tout. C'est mon avis.
Je rebondis sur ce que tu as dit. Tout le monde ne l'a pas forcément, même avec en ayant l'enfant, en le voyant grandir. Et il vient pas forcément, même au bout de quelques années. Bah, je le vois dans les relations que certaines personnes ont avec leur mère, qui, même si elle doit être présente, elle l'est pas. Enfin, juste, elle a pas. Et ils font souvent le rapprochement avec le fait qu'elle occupe le rôle d'un père. Parce que la plupart du temps, c'est les pères qui sont pas là, qui sont absents, qui donnent pas beaucoup d'attention. qui n'ont pas ouais, le rôle de parent. Les deux absences créent des, on va dire, des dysfonctionnements dans l'évolution de l'enfant, mais je pense que l'absence d'un père, on va dire l'absence de soutien, etc., bah, c'est beaucoup, c'est très répandu et on n'en parle pas assez, je trouve. Et sauf que bah, l'enfant, il est là et il a besoin de repères. Et bah, je pense que c'est à eux de se justifier davantage sur le fait d'avoir un enfant et de pas perdre leur temps à demander pourquoi toi tu veux pas d'enfant. Enfin, c'est plus pourquoi toi tu veux un enfant, comment tu comptes l'aimer, comment tu me comptes le soutenir, qu'est-ce que tu veux mettre en place pour qu'il se sente le mieux sur Terre et pas juste faire un enfant et voilà.
Alors là-dessus, bon, on dévie un petit peu du coup sur le sujet plus large de la parentalité, mais tu as dit quelque chose de très intéressant, je trouve. Tu as parlé de la banalisation de l'absence du père. Et ça, je voudrais revenir dessus parce que c'est hyper important, en tout cas, quand on définit l'instinct maternel. Alors, pour moi, c'est personnel. L'instinct maternel, c'est, entre guillemets, la perception qu'on a du fait que la femme, qui a généralement à porter l'enfant en son sein pendant 9 mois, plus ou moins, a entre guillemets eu une longueur d'avance en fait sur cet attachement et cette responsabilité puisqu'elle l'a porté bien avant du coup que le père ne rencontre cet enfant et il y a dans la plupart des cas une responsabilisation plus grande de la mère qui réalise plus tôt ce que c'est que d'être parent. C'est littéralement elle qui protège le bébé dans son ventre. Et d'où l'instinct parental. Moi, je préfère plutôt parler d'instinct parental plutôt que d'instinct maternel, puisque un père peut totalement, de la même façon qu'une mère, protéger son enfant aussi bien si il prend conscience que son enfant est à venir et qu'il en aura la responsabilité, de la même façon que la mère. C'est juste que dans notre société, comme tu disais, il n'y a pas assez de dispositifs pour aider les hommes à prendre conscience de leur paternité. En l'occurrence, ils n'ont pas forcément de congé paternité assez long pour pouvoir avoir ce moment d'introspection, de la réalisation qu'il va devenir père et qu'il y a un petit être qui va compter sur lui pour pouvoir lui apprendre toutes les choses qu'il faut pour pouvoir évoluer dans la vie. Je pense réellement qu'avec une plus grande réflexion, et ça passe pas uniquement par des réflexions personnelles, je pense que ça doit être, il doit y avoir une réflexion à la fois sociale et politique autour du rôle du père dans les premiers mois, les premières années de l'enfant, puisque comme tu dis, c'est hyper important d'avoir la présence du père dans les premiers moments de vie, puisque ça va influer après sur tout le reste de l'existence. Donc pour cette raison, l'instinct maternel, je dis que c'est une construction. Il y a des tas de couples où c'est l'inverse, au contraire, que le père prenne en charge ce rôle en fait de protecteur dans les premiers mois et que ce soit lui en fait qui s'occupe le plus de l'enfant. On est d'accord que jusqu'à maintenant, ça reste des situations assez marginales puisque les hommes n'ayant pas forcément le congé paternité, n'étant pas reconnus comme ayant entre guillemets l'instinct paternel. En tout cas, n'ayant pas cette perception par la société, peut ne pas être encouragé, en tout cas, à faire ces démarches-là pour pouvoir s'impliquer d'autant plus dans la parentalité. En 2020, la journaliste Sarah Gibbons publie sur le site du National Geographic un article très court qui s'intitule « L'instinct maternel est-il vraiment l'apanage des mères ?» où elle explique très brièvement que des tests de laboratoire ont été faits sur les grands-parents d'un bébé qui est né. Et lors de la première rencontre, la grand-mère a aussi eu cette poussée d'ocytocine. Alors bon, les chiffres donnés, c'est voilà, le taux d'ocytocine a augmenté de 63% chez la grand-mère quand elle a rencontré le bébé pour la première fois, alors que le grand-père a eu une poussée d'ocytocine de seulement 23%. Et en revanche, lors de la deuxième rencontre, c'est le grand-père qui a eu donc cette poussée d'ocytocine très importante. Donc voilà, est-ce qu'on peut aussi définir l'instinct grand-paternel et grand-maternel? Est-ce que ça existe aussi? Est-ce que ça peut s'apparenter du coup à l'instinct maternel si on en croit du coup ces études purement laborantines?
Et vu que tout à l'heure je parlais de l'instinct paternel, j'aimerais citer l'auteur Cédric Rostein, qui a sorti son livre s'intitulant Tu vas être papa. Et déjà, c'est important de dire qu'il a été écrit par un homme et c'est pas son premier livre. Ça, c'est important parce qu'il parle justement du fait d'être papa, de comment ça se passe, de conseils pratiques, mais aussi de conseils psychologiques, de comment. Enfin, toutes les étapes, en gros, c'est un petit guide et voilà. C'est dommage qu'il soit sorti que maintenant, mais il est mieux tard que jamais.
C'est ça, parce que c'est vrai que c'est intéressant de remarquer que souvent, en tout cas quand on écoute des podcasts, des vidéos, il y a même des émissions à la télé sur la parentalité, souvent c'est des femmes qui présentent avec des femmes invitées qui citent des articles de femmes avec des interviews de femmes qui se sont vachement préparées à leur accouchement, qui ont acheté plein de livres sur la parentalité. Mais voilà, c'est vrai qu'on a rarement quand même des témoignages d'hommes qui se sentent vraiment concernés par cette transition dans leur vie et qui en plus donnent des conseils à d'autres hommes qui vont aussi passer cette étape.
C'est important que les deux, que ce soit la mère ou le père, se sentent concernés et que ce soit pas tout sur la mère. Le poids de t'aller se renseigner, de tout prévoir, de tout ça, bah, que ça soit partagé, étant donné que le bébé, il n'a pas été fait tout seul. Je vois pas pourquoi ça reviendrait qu'à une seule personne, déjà. Et si en plus, derrière l'accouchement, il y a tout doit être géré par la même personne qui a accouché, c'est un travail qui devrait être rémunéré à ce titre.
Si seulement, hein, si seulement.
Moi, je veux bien.
C'est ça.
J'arrête tout.
Mais c'est vrai que on n'en parle pas assez de cette charge mentale. On parle souvent de la charge mentale de la femme au foyer qui fait les tâches ménagères, prépare les bons petits plats, etc. Mais on parle rarement de la charge mentale qui est de préparer la venue au monde de l'enfant. On pourrait s'interroger quels seraient des dispositifs plus efficaces que on pourrait mettre à notre disposition pour justement intégrer davantage les hommes dans la parentalité, les aider à avoir cette réalisation justement de leur devenir de père. Quelles idées en fait on pourrait donner là-dessus, hein?
Pour rebondir là-dessus, c'est une idée générale, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun cours en école, au lycée, même peut-être à l'université sur des études de psychologie, mais il n'y a aucune formation pour tous parents qui veulent devenir, alors que finalement c'est un des plus grands métiers de l'humanité depuis le début des temps, mais il n'y a aucune formation sur le sujet. Et du coup, on apprend toujours tout sur le tas. Et du coup, on a le problème de du coup juste répéter ce qu'on a vu nous faire avant. Alors, c'est très bien si on a eu des bons modèles. Mais si on n'a pas eu des bons modèles, ça peut être très dur de s'en détacher.
C'est vrai, il y a des ateliers qui existent justement pour essayer de montrer les premiers gestes, etc. Mais c'est vrai que c'est des ateliers où il faut un peu fouiller, il faut connaître ces intervenants-là, il faut être associé à ça. Si on n'est pas du tout là-dedans au premier abord, c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette spontanéité d'aller faire ces cours de préparation, parce que ça existe, c'est juste que c'est pas répandu, et encore moins dans certains milieux. Enfin voilà, ça dépend vraiment des classes sociales, j'imagine. Est-ce qu'il faudrait justement penser quelque chose de plus institutionnel pour, non pas obliger, mais proposer en fait, en tout cas, ces cours spontanément?
Et rassurer surtout. Enfin, moi, si demain je devenais maman, j'avoue que je paniquerais un peu. J'ai ma mère déjà, je sais pas, quand elle tombe enceinte de son troisième enfant, c'est bête, mais elle allait voir un médecin, et il lui a dit, bon, bah, vous voulez avorter, parce que c'est votre troisième enfant, forcément vous n'en voulez plus. Et enfin, j'ai une autre fille qui m'a dit ça, genre, ça s'est passé il y a à peine 3 ans, c'était son premier enfant par contre, et je sais pas d'où ça sortait. Donc, je pense que quand on dit qu'on veut un enfant, il y a deux réactions. Soit on vous dit c'est génial, soit on vous dit bah on peut vous aider à pas en avoir un. Mais si on vous dit c'est génial, on vous dit pas comment vous pouvez bien le faire, quoi.
Comme
Comment.
si c'était naturel, quoi.
Voilà. Ou même à la limite, si vous en voulez pas, il n'y a rien qui va être là pour vous rassurer au cas où c'est des peurs qui peuvent être résolues. Par exemple, bah, non, je sais pas comment m'en occuper, ça se trouve, j'aurai pas l'argent, j'aurai pas les trucs. Il y a plein de moyens qui existent, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on va essayer de rassurer, de trouver des solutions avant de prendre une décision en définitive?
Je pense que c'est des choses qui peuvent être mises en place. Mais je pense que ça devrait même être beaucoup plus popularisé dans le sens où même moi qui ai 19 ans, que je sache que par exemple, bah, à cet endroit-là, si, imaginons, je sais pas, enfin, pour moi, catastrophe, mais c'est tout dépend des personnes, j'ai un enfant et que c'est trop tard pour avorter, que je sache que à cet endroit-là, bah, je vais pouvoir retrouver du soutien, mais aussi de l'aide pratique, qu'est-ce qu'il faut faire, l'administratif aussi, comment on fait, tout ça, et que, enfin, d'oublier le fait que ça devrait être naturel, parce que pour les hommes, ça l'est pas. Enfin, on ne dit pas aux hommes, ah bah voilà, c'est plus la femme, ah bah si, bah ta mère, elle t'a pas dit, non, non, on fait comme ci, comme ça. Et bah, en fait, ça découle de génération en génération. Je pense avoir une nouvelle manière de voir ça et de voir ça un peu comme quand, enfin, l'école c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Bah, faire une formation obligatoire, même de, je sais pas, 2 semaines ou même 1 semaine. Je pense que même 1 semaine, ça aurait un impact important sur la vie de l'enfant et c'est pas à négliger.
C'est vrai qu'on se dit qu'à l'école, quand on est au collège, au lycée, ils nous font des sessions de sensibilisation typiquement à la
Contraception.
contraception, c'est
Ouais.
ça? L'histoire de 3 heures, savoir comment ça se passe, qu'est-ce que ça implique. Pour aller plus loin, on peut en effet essayer de mettre des petites sessions comme ça. Qu'est-ce que ça implique d'avoir un enfant? Et au-delà de ça, de comment élever un autre être humain, tout simplement.
Ouais, ça devrait être obligatoire. Mais bon, et sous peine de amende. Et si
Une vraie amende,
voilà,
c'est toi pour.
amende. Mais voilà.
Voilà. Du coup, est-ce que je peux peut-être conclure aussi sur justement dans son livre intitulé Sorcière, Mona Choulet nous livre son expérience tout au long de l'essai et elle estime, quant à elle, ne pas pouvoir ajouter un membre à la société alors que celle-ci a si spectaculairement échoué à établir un rapport harmonieux à son milieu vital et semble si bien partie pour le détruire tout à fait. Donc c'est vrai qu'on s'interroge en fait, est-ce que c'est le bon moment en termes d'histoire de l'humanité pour faire un enfant?
Je pense que il faudrait plutôt développer des bons dispositifs pour préparer une meilleure génération future plutôt que simplement de s'interdire de ne pas avoir d'enfants. Et donc on a besoin, nous, de créer une génération qui va pouvoir régler les problèmes du futur. Et donc ça passe par créer tous ces dispositifs d'accompagnement dont on a parlé déjà pour être de meilleurs parents, pour qu'eux soient des meilleurs êtres humains à part entière. Mais aussi de meilleures personnes qui puissent résoudre des problèmes, avoir la compassion et résoudre les problèmes du futur.
Alors moi, pour terminer, j'aurais juste précisé qu'il n'y a pas de bon ou mauvais. Il n'y a pas de bon ou mauvaise chose. Si vous avez envie d'avoir des enfants, bah, c'est bien. Si vous n'en avez pas envie, c'est bien aussi. Il n'y a pas un meilleur que l'autre. Et voilà, c'est tout.
Merci Cynthia, merci Fabienne.
Merci
Merci à
Ambre.
toi.
Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes 5 citoyens de Gentilly ou des alentours, rassemblés autour du sujet des droits des femmes, avec la volonté de continuer donc la discussion que l'on avait entamée la semaine dernière sur le rôle de la maternité dans la vie des femmes. Le débat avait donc vite viré sur le sujet plus large de la parentalité, sujet qui va donc résonner autrement aujourd'hui avec donc vous quatre qui avez des vécus complètement différents.
Bonjour, je m'appelle Véronique, j'ai 4 enfants, une fille de 20 ans, 2 jumeaux de 17 ans et demi et un petit dernier qui a 8 ans.
Florence, j'ai 2 filles, une fille de 18 ans et une autre de 27 ans.
Je m'appelle Alexandre, j'ai 2 enfants. Un garçon de 7 ans et un garçon de 16 ans.
Colette, je n'ai pas d'enfant, mais ce n'est pas par choix. C'est arrivé comme ça.
Et Ambre, 25 ans, j'habite également à Gentilly. Il y a de plus en plus de femmes, alors contrairement à Colette qui font délibérément le choix de ne pas avoir d'enfant, et cette situation remet en question le rôle de la femme aussi dans la parentalité, et donc des hommes aussi. Colette, tu as 89 ans. Est-ce que tu pourrais nous expliciter pour quelles raisons tu penses que tu n'as pas eu d'enfant?
Bon, ça s'est passé comme ça dans ma vie. Ce n'est pas un choix. Ma vie en est décidée autrement. J'étais très très prise et passionnée par un métier où j'étais peut-être trop dedans et avec pas des pensées extérieures qui auraient été nécessaires.
Du coup, j'en profite pour rebondir auprès de nos trois autres invités, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un bon timing dans votre vie pour avoir des enfants? Est-ce que vous aviez préparé leur venue ou
Oui, alors pour moi, c'est vrai que le bon timing, il n'y en avait pas. Et donc, il a fallu s'armer de patience et ça a fini par se faire tout à fait naturellement.
Alors moi, j'ai pas toujours voulu des enfants. C'est après l'âge de 26 ans que ça m'a trotté dans la tête et que j'ai eu ma première fille. Mais c'est plus son père qui voulait un enfant que moi qui voulais un enfant.
C'est très spécifique, 26 ans. Est-ce que c'était un événement en particulier ou comme tu dis, c'est la demande du père qui s'est faite quand tu avais 26 ans?
Je me suis dit que voilà, c'est à force de m'en parler, c'est peut-être plus rentré dans ma tête. Et après, en fait, j'ai ressenti peut-être ce besoin. Mais au départ, je ne voulais pas forcément d'enfant. Je trouvais ça compliqué. Et je trouvais que dans le monde de l'époque, je n'avais pas trop ce que j'allais leur donner comme vie après, quoi.
Moi, par contre, j'ai eu mes enfants à partir de 28 ans parce que j'avais commencé à travailler avant. Après, le papa avait eu déjà une relation déjà avant où il avait eu déjà une fille. Donc, on s'est mis ensemble et c'est là que, bah, à 28 ans, bah, on s'est rencontrés et on a eu notre première fille.
Ma prochaine question est la suivante, Colette. Est-ce que tu as ressenti une forme de regret de ne pas avoir eu d'enfant?
Non, aucun, parce que j'ai toujours beaucoup vécu avec des enfants et vécu très proche.
Est-ce que tu dirais que c'est une forme pour toi de parentalité, hein?
Il ne faut pas y aller trop fort. Il ne faut pas se prendre pour des parents quand on n'en est pas. C'est autre chose qui se passe. Il y a effectivement certaines responsabilités, mais qui n'est pas celle des parents.
À l'inverse, depuis les années 2020-2021 environ, il y a plusieurs livres qui sont parus sur le sujet du regret d'être devenue mère, en l'occurrence. Voilà, ce sont des femmes qui ont publié, non pas sur le non-amour de leurs enfants, mais sur le regret d'avoir expérimenté la maternité et la parentalité. Je voulais aussi vous poser la question, à vous qui avez eu des enfants, est-ce que vous avez pu avoir une forme aussi, non sans aimer vos enfants, de regret en fait d'être devenu parent?
Alors c'est vrai que le fait d'être parent, je dis pas qu'on le regrette, mais il y a quand même une espèce de nostalgie du temps où on n'avait pas d'enfants, parce que ça nous permettait d'avoir une plus grande liberté. Et de ne pas avoir des obligations de se lever par exemple, de faire le quotidien qu'on fait habituellement avec des enfants et de pouvoir, en fait c'est une espèce d'égoïsme, voilà. C'est un peu ça qui parfois peut revenir dans la vie.
Alors moi, est-ce que j'ai regretté d'avoir mes enfants? J'ai pas regretté, ça m'a fait peur parce que je vivais, ma vie s'est pas passée comme je l'imaginais. Et je trouvais que c'était chaud d'avoir des enfants dans cette vie-là, quoi. À certains moments, j'ai regretté d'avoir peut-être traumatisé mes enfants par du vécu.
La première, c'était une fille. J'ai trouvé ça merveilleux. Après, j'ai eu deux jumeaux qui sont différents. Et encore le dernier qui a 8 ans, c'est pas la même chose encore. Il y a une différence déjà d'âge. Pour moi, ça a été un décalage entre la première et le dernier, en fait.
Mais Véronique, qu'est-ce qui s'est passé avec entre ton troisième enfant et le dernier? Tu dis, il s'est passé, ça a été différent. Est-ce que c'est dans le temps? La vie est très différente. Ou est-ce que c'est toi? Ou est-ce que c'est avec trois autres? Qu'est-ce qui a fait que pour toi c'est différent?
Le petit dernier, en fait, j'ai plus, on va dire, donné plus d'amour. on va dire, de réconfort au dernier que j'ai donné à la première et aux deux jumeaux, en fait. Comment expliquer
Est-ce que c'était...
J'avais besoin d'un réconfort, en fait. J'avais besoin de quelque chose de maternel que je n'avais pas donné aux autres.
Est-ce que c'est parce que tu avais moins le désir de maternité pour les premières?
Non, pas du tout.
Tu étais peut-être plus disponible aussi que Véronique.
Et j'étais beaucoup plus disponible avec le dernier qu'avec les trois autres.
Est-ce que vous pensez que vous auriez aimé votre vie si... Toi, Colette, tu avais eu des enfants, et si pour vous, vous n'aviez pas eu d'enfants?
Mais absolument. Moi, je pouvais rentrer à n'importe quelle heure, je pouvais aller à un concert, je pouvais travailler la nuit, ça gênait personne. Je n'avais pas d'enfants à nourrir en rentrant. Et ça, je me suis aperçue avec mon entourage que c'était pas un choix, ça s'est passé comme ça, mais que ma vie aurait été complètement différente.
Que tu penses que tu aurais pu réaliser autant tes projets si tu avais eu des enfants?
Oh ben, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Impossible. Parce que j'étais complètement disponible dans les lieux où je travaillais. Et puis, il n'y avait que ça qui comptait. Je cherchais énormément dans mon métier. Puis, en pensant toujours à des enfants, en fin de compte, c'est ça. C'est que quand je faisais quelque chose, j'avais toujours un enfant en face de moi. Et quand ils étaient tous devant moi, ils étaient individuellement tous avec moi. J'étais plutôt toute avec eux.
Alors, sur ce... oui, le sujet de la... Donc, si j'avais pas eu d'enfant, alors c'est sûr, j'aurais fait d'autres choses. Mais je pense que ma vie aurait été plus fade. Si j'avais pas eu les enfants. Et si je n'avais pas eu mes enfants, je serais peut-être resté avec mes repères à moi, mes références à moi, et j'aurais continué à écouter Nostalgie et RFM tout le reste de ma vie.
Moi, ma vie aurait été sûrement différente, c'est clair. Comme dit Colette, j'aurais été plus disponible pour faire d'autres choses. Par contre, ça aurait donné un sens autre. Moi, quand j'ai eu ma fille, ma première fille, et ça a été aussi un peu pareil pour la deuxième, mais surtout la première, ça a donné un sens à ma vie. D'un seul coup, je me suis dit, je sais pourquoi je me lève, je sais pourquoi je fais ci, parce que j'ai une petite bonne femme à m'occuper. Ça m'a permis aussi de sortir d'un mauvais pas. Dans un sens comme dans un autre, ça aurait été différent. Si j'avais continué comme j'étais, je ne sais pas où je serais, peut-être bien, peut-être ça aurait rebondi aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'avoir un enfant, ça, c'est évident que il y avait des choses que je ne pouvais plus faire. Parce que j'étais responsable d'une vie, c'est pour ça que je disais que ça me faisait peur aussi. Et comme j'avais peur de ne pas bien faire, bah, je devenais plus responsable en fait. J'étais obligée de me calmer sur des choses.
Et j'ai une amie qui disait, notre premier enfant, on l'a épinglé. Le deuxième, on l'a bâti. Le troisième, on l'a cousu. Et le quatrième, on l'a brodé. Oui. Et quand elle a dit ça, ça m'est venu... Mais c'est après ce qu'elle disait.
Oui, c'est vrai.
À chaque fois que je voyais des amis, leurs problèmes, je les prenais aussi. Ce que j'ai entendu souvent, c'est des craintes. Peut-être que dans cette époque-là, il y a 40 ans, on ne vivait pas les mêmes choses.
Oui, oui, on ne vivait pas les mêmes choses. Et c'est vrai que quand j'ai eu la première, mon idée, c'était, bon, c'est vrai, une petite fille. Mes parents m'avaient éduquée d'une certaine manière. Est-ce que j'allais pouvoir réussir de la même façon qu'ils m'avaient éduquée? Et c'était pour moi quelque chose d'impossible. Déjà pour la première, je me suis dit non, je ne vais pas y arriver, je vais être bloquée. Et puis en fin de compte, non, ça passait. Et puis avec le temps, et ben, en fin de compte, non, ben, je me suis dit, ben, non, j'ai bien réussi.
Quand vous disiez que le fait d'avoir des enfants, ça vous avait aussi donné un sens. Moi, j'ai le point de vue inverse de l'enfant qui voit mes parents, dont, on va dire, pas à 100%, mais la majeure partie de leur vie a été dédiée à moi et mes sœurs. Et on a eu une très bonne éducation et on a très bien vécu, et pour ça je les en remercie. Mais en prenant exemple sur eux en tant qu'individu, je ressens quand même une forme de déception, dans le sens où je me rends compte que mes parents, à côté du fait qu'ils nous élevaient, ils n'ont pas fait beaucoup de choses au niveau de leur carrière. Ils sont restés au même endroit pendant quasiment toute leur vie. Sans faire de projet spécialement. Quand j'entends parler de modèles, de gens qui ont fait des grandes choses, c'est vrai que ça pouvait m'inspirer. Et quand je voyais du coup les modèles que j'avais autour de moi, même si ils m'ont toujours poussé à faire beaucoup de choses, et c'est vrai que ça m'interroge beaucoup. Et c'est, pour l'instant, c'est pour ça aussi que j'ai pas du tout envie d'avoir d'enfants, parce que la période entre laquelle j'ai plus été chez mes parents et que je suis sortie en fait de ce schéma de juste m'occuper, on va dire, de ma famille, d'être entre les miens, sans aller vers le monde. J'ai envie de développer, du coup, une carrière et aussi des projets professionnels. Et j'ai beaucoup envie d'échanger avec des personnes qui me ressemblent et qui me ressemblent un peu moins. Je pense que c'est aussi là-dessus, quand je regarde mes parents, qu'ils ont toujours été au contact de gens qui leur ressemblaient beaucoup. Et c'est aussi pour ça que j'ai jamais été dans des situations inconfortables, et ça a toujours été très bien pour moi quand j'étais enfant. Mais c'est vrai que pour pouvoir se heurter en fait à la réalité de la société, et peut-être aussi dans un sens faire changer les choses, qu'il fallait que je sorte justement de cette zone de confort, et que je trouve aussi un sens qui n'était pas forcément d'avoir des enfants et de vivre ma vie juste pour moi, mais aussi de vivre la vie pour faire avancer la société aussi. Est-ce que vous, pour le coup, vous aviez anticipé en fait l'arrivée de vos enfants, ou en tout cas du premier? Est-ce que ça s'est déroulé de la manière dont vous l'aviez imaginé, en tout cas si c'était désiré, et je ne sais pas depuis combien de temps
Anticipé. Je suis embêté, parce qu'en fait, ça se prévoit pas vraiment. C'est vraiment marche par marche, étape par étape. Mon enfance a beaucoup joué en fait dans toutes ces décisions-là. Comme j'ai pas eu une enfance, on va dire, très stable, très cadrée, très, très classique, en fait, j'ai voulu offrir à mes enfants quelque chose de, voilà, de cadré, avec des parents, un père qui les aime, qui joue avec eux, qui est présent, etc. Et quand je t'écoute, Ambre, en fait, tu me fais penser à moi quand j'avais ton âge. C'est que au départ, j'avais misé sur plein de projets, plein de choses à faire. Sauf que bah, j'ai rencontré ma future femme. Et quand tu rencontres, quand j'ai rencontré la femme avec qui j'allais faire ma vie, j'espère encore aujourd'hui le plus longtemps possible, hein, on va dire. Et ben tout ce que j'avais pensé avant, ça a été mis à l'eau en fait. Et avec le temps, en fait, je remarque qu'avec le temps, on veut plus se poser, peut-être. Et donc, les choses évoluent hein, par dizaines, souvent. Hein, 20, on ne pense pas pareil qu'à 30, pas pareil qu'à 40. Et j'imagine après, hein, sous couvert de Véro et de Florence, hein, je crois que ça évolue encore après.
Alors, pardon, j'ai besoin vraiment de répondre. Je peux répondre? Alors, pour le coup, c'est vrai que je me considère comme chanceuse, parce que j'ai déjà rencontré en fait, la personne avec qui je vais passer, je l'espère en tout cas, une bonne partie de ma vie. On a ces réflexions en tout cas sur la parentalité à deux, et c'est, je pense, les réflexions que je vous ai exposées, ils les partagent aussi. Donc je pense pas que ça va évoluer en tout cas très prochainement, et si ça le sera, ça va pas remettre en question, comme tu en parles, comme un chamboulement. Ce sera pas une surprise en fait, parce que c'est des choses qu'on fera à deux sur le long du coup de cette réflexion. Et le fait que tu disais, à un moment, on a envie de se poser, je me sens très posée, pour le coup. Alors, quand je parle d'avoir des projets et de faire plein de choses, je parle pas forcément de le faire avec un rythme erratique et comme des jeunes qui font la fête tout le temps et qui n'ont pas de vie stable. Je pense que moi, je suis quelqu'un de très casanière et je pense que j'ai une vie stable pour, à mon avis, les gens de mon âge. Et quand je dis que je veux continuer d'avoir des projets, de développer beaucoup de choses, par exemple, venir et faire ce projet d'émission de radio, pour moi, ça en fait partie. Hein. Tu es aussi présent avec moi et c'est un projet que tu mènes. Et pourtant, le fait d'avoir des enfants, ça t'a pas empêché de le faire. La question, c'est est-ce que au moment où tu étais en train de activement avoir des enfants, on va dire plutôt en début de parentalité, est-ce que c'est des choses qui te seraient peut-être venues moins venues, peut-être, de faire ce genre de projet
Oui, alors tu as raison. Au début, j'étais très fixé sur la présence à la maison. Ça, c'était pour moi, j'avais l'idée vraiment du papa présent, etc. Et donc, du coup, toutes les idées que j'avais, on aurait pu, voilà, les propositions, comme là, par exemple, si Sylvie m'appelle, j'aurais très bien pu me dire non, je peux pas, écoute, il y a les enfants, on a promis de regarder un film ensemble, etc. Leur donner du temps. Je me serais pas dit à l'époque, voilà, j'aurais peut-être pas accepté comme j'ai accepté aujourd'hui, effectivement. Il y a une évolution quand même.
Justement, est-ce qu'on se confronte justement à cette réalité quand nos enfants, vos enfants plutôt, constatent qu'ils peuvent vivre pour eux-mêmes? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez aussi anticipé hein, et que vous avez bien pris, pour ceux qui ont des enfants plus grands en tout cas?
Moi, oui. Pour moi, un enfant, il n'est pas fait pour rester avec moi toute sa vie et moi, je ne suis pas faite pour... rester avec lui, collé à lui toute ma vie non plus. Dire je le connais par cœur, c'est mon enfant, bah moi j'y adhère pas. C'est pas parce que c'est mon enfant que je le connais, en fait. Par exemple, je pense que Colette a connu certains enfants mieux en travaillant avec eux, en faisant des choses avec eux, que certains parents eux-mêmes connaissaient leur enfant. Parce qu'elle avait une autre relation avec elle, une autre approche. Connaissait d'autres facettes. Des fois, quand on est parent, on reste dans un schéma et on se dit, il faut être parent comme ça, en fait. Comme tu disais, moi, j'ai pas anticipé l'éducation de mes enfants ou mes parents, qui sont de la génération de Colette, en tant que parents, d'une certaine manière, ils étaient, la route était tracée. J'ai les enfants, on va faire ça, on va les éduquer comme ça. Ils vont aller dans telle école, ils vont faire tel truc... Moi, j'ai été élevée comme ça. Et ça m'a en fait frustrée parce que j'ai pas fait ce que je voulais faire, j'ai pas été reconnue, même si j'adore mes parents et qu'ils ont fait de leur mieux, etc. Mais en fait, ils n'ont pas compris qui j'étais, en fait. Il a fallu que ce soit ma vie qui me dise... Et comme moi, j'ai eu mes propres enfants, bah, ils ont un peu essuyé les plâtres de la connaissance que je faisais de moi-même, en fait. J'ai absolument pas fait certaines choses qu'ont fait mes parents. Parce que, justement, je voulais pas qu'ils vivent ça. Même si c'était... Moi, je viens d'un milieu bourgeois, j'ai jamais manqué de rien. Voilà, j'ai fait des études, j'ai un bac plus 4. Enfin, bon, bref, j'ai fait tout comme il faut. Mais j'étais dans un schéma de vie. Par exemple, quand tu nais chez les bourgeois, faut que tu sois bourgeois. Faut que tu fasses telles études, faut que tu prennes tel chemin... Ben moi, j'avais pas forcément envie de le faire. J'avais pas forcément envie de faire des grandes études. J'avais envie de faire de l'ébénisterie quand j'étais en troisième. J'en ai pas fait parce que ça se faisait pas. Donc moi, quand j'ai eu mes enfants, et ben d'un côté, peut-être c'est ce qui les a fait aussi souffrir un peu. Ben d'un côté, j'ai changé. Et ce qui est important, c'est que ils soient surtout ce qu'ils ont envie d'être, qu'ils soient eux-mêmes, quoi. Moi, j'ai pas de schéma pour mes enfants, en fait. Le schéma, c'est qu'ils aillent bien. C'est qu'ils soient heureux. Maintenant, s'ils me disent... si mes filles, elles me disent « Maman, j'aime les filles », ben, t'aimes les filles. Si l'autre aime les garçons, ben, t'aimes les garçons. Si tu veux faire des longues études, ben, on va essayer de faire des longues études. Si tu veux faire des courtes, t'en feras des courtes. Si tu veux voyager, tu iras voyager. Si... Voilà, j'ai pas de schéma, en fait. Mais par contre... Ça a demandé pas mal de choses, de détricoter toute cette éducation. Donc ça, il y a eu des vertes et des pas mûres, il y a eu des hauts et des bas. C'est à elle maintenant de faire la part des choses et de comprendre.
Tes enfants ont quel âge, pardon?
18 ans et 27 ans.
Du coup, j'ai une question. En rebondissant sur ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit « Avoir des enfants, ça a donné du sens à ma vie. »
Oui.
Maintenant que tes enfants sont presque assez grands, en tout cas, pour avoir leur vie à eux, est-ce que tu penses que ta vie a un sens différent, n'a plus de sens, et a un sens qu'il a toujours eu, mais que, dont tu te rends compte que maintenant ?
Elle a encore plus de sens, et plus je vieillis, plus elle a sens, ma vie, en fait. Parce que mes enfants ont donné un premier sens, mais parce que j'aime les gens, et les gens, travailler avec des personnes, rencontrer d'autres enfants, d'autres gens, échanger, c'est ça le sens de la vie, et c'est ça que je veux donner à mes enfants, en fait. C'est de leur dire, on s'en fout que t'es... la dernière paire de baskets, je sais pas quoi. Ce qui est important, c'est le sens que tu vas donner à ta vie. C'est trouver quelqu'un qui t'aime, c'est faire des enfants ou pas. C'est t'épanouir dans ce que tu fais. Donc en fait, c'est ça. Tout ça, c'est le sens et avec eux, ouais.
Oui, moi, je sais que par rapport à la première et aux jumeaux, la première, elle a préféré faire de la vente. J'en ai un qui est en système numérique. Un de mes fils. L'autre a choisi, de son frère jumeau a préféré faire la restauration, en fait. Et quand j'ai posé la petite question au petit dernier, c'est ce qui m'a fait le plus rigoler, il fait, moi, je veux être conducteur de bus. Conducteur de bus. J'y vais, mais pourquoi? Il me fait, parce que comme ça, j'aurai à parler avec les gens. Et en fait, pour moi, c'est l'inverse de moi, en fait. J'ai été jusqu'en première. J'avais le choix ou d'aller travailler ou d'aller retourner faire mes études. Et en fait, j'ai préféré aller travailler à la place. Et après, je me suis dit, c'est vrai quand même. J'aurais dû continuer mes études.
Pourquoi tu penses que tu aurais dû continuer?
J'en serais pas là où j'en suis maintenant, en fait. D'avoir poussé mes enfants, en fait, pour qu'ils aient leur bac, pour qu'ils soient, on va dire, entre parenthèses, mieux que moi, et que leur avenir il soit tout tracé. J'aurais pu, plus les aider, peut-être pas au niveau études, mais au niveau de la vie actuelle, quoi, je veux dire, pas...
Avoir une meilleure situation.
Voilà, avoir une meilleure... Oui.
Ouais.
Je me suis fait également la même réflexion que toi. Et finalement, quand je regarde en arrière, je me dis que oui, si j'ai fait ce que j'ai fait, au moment où je l'ai fait, c'est que mon environnement était comme il était à ce moment-là. Et que finalement, peut-être que les décisions qu'on a prises, je sais pas toi, étaient finalement les seules décisions qu'on pouvait avoir de mieux. Tu as terminé, tu as arrêté ta première, tu avais probablement une bonne raison d'arrêter. Et tout ce qui s'est passé dans ta vie avait probablement une bonne raison de se passer. Et c'est grâce à ça que tes enfants, tu as pu les pousser jusqu'au bac.
Oui.
Et qui, grâce à toi, vont pouvoir avoir un chemin libre, de liberté, et de faire ce qu'ils ont eu envie de faire.
Je ne leur ai pas dirigé vers quoi que ce soit. Ils avaient envie de faire ces études-là. J'ai pas été... je leur ai dit, vous voulez le faire? D'accord. Mais vous travaillez, vous réussissez. Ils m'ont dit, oui, ok, pas de souci, maman. Tu nous as inscrits dans une école de cuisine, dans une école de numérique, de vente. On va le faire. Et j'en suis fière, vraiment. Je suis fière de ce que j'ai fait, en fait.
Moi, je pense, en tout cas, quand tu disais que ton fils voulait être chauffeur de bus pour pouvoir parler aux gens, je pense, à mon avis, que malgré son jeune âge, il a probablement tout compris. Parce que qu'on ait des enfants, qu'on n'en ait pas, qu'on en veuille ou qu'on n'en veuille pas, je pense que ce qui nous réunit, en fait, autour de cette table... c'est de vouloir créer du lien et d'avoir des relations saines avec des gens qu'on apprécie et que ça puisse durer le plus longtemps possible. Et je pense que quand certaines personnes se disent qu'avoir des enfants, ça leur donne du sens à leur vie, finalement, inconsciemment, en fait, c'est avoir des enfants, ça rattache le lien peut-être qu'on avait perdu temporairement. Et ça permet de recréer en fait une envie, un lien en fait tout simplement avec ce qui se passe autour de nous et comment on s'intègre finalement au sens plus large dans la société. Et c'est ce qui nous rend individuellement aussi ancrés dans le monde. En écoutant finalement tous vos témoignages, au début, quand vous me disiez, j'avais ce sentiment qu'avoir des enfants, c'est même pour Colette finalement. C'est la chose qu'il fallait, ça rendait heureux, c'était pour vous un accomplissement par lequel il fallait passer. Et au fur et à mesure de la discussion, je me rends compte que c'est vraiment non pas le fait d'avoir un enfant en soi, mais c'est le vécu de la personne selon comment il voit l'arrivée d'un enfant qui permet en fait de recréer du lien avec l'enfant peut faciliter en fait cette création du lien. Que ce soit avec la famille, que ce soit avec le reste du monde. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant que finalement, on ait la même idée du sens de la vie, en fait. Mais ça s'inscrit différemment, en fait, selon les vécus et selon les aspirations. Hein.
Colette.
Merci à tous. Ça fait réfléchir.
Merci, Colette.
Merci, Colette.
Merci, Colette.
Je suis très heureuse que toutes ces mères aient des enfants parce que j'ai vécu grâce à eux.
C'est ça.
Eh oui.
On est quand même aujourd'hui réunis autour de la table pour échanger en fait autour de ça et c'est vraiment hyper riche comme échange.
C'est ça. Tout à fait. Alors Ambre, pour la prochaine fois ou plus tard, que pensez-vous, vous, maintenant d'avoir des enfants, là, d'ici peu.
Oula.
Vaste débat. On se donne rendez-vous pour que tu nous répondes à cette question.
D'ici
c'est toi,
10 ans.
C'est toi, est-ce que... Comment
oui, d'ici 10, 20 ans.
C'est ça, rendez-vous dans 10 ans.
Rendez-vous dans 10 ans pour voir où t'en seras à ce moment-là, justement.
C'est ça.
Exactement.